Bonsoir, mes amis, mes sœurs. Comment ça va? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la journée a été fatigante et a été une course. Mais vient le temps du repos. Il y a toujours un moment pour le repos que le Seigneur a prévu. Ça va, Sandra? Tu es là ce soir? Alléluia. Je voudrais prier quelques instants. Seigneur, c'est vrai que tu es fidèle, Seigneur. Ce soir, nous voulons tourner nos regards vers toi. Et Seigneur, j'invoque vraiment ton nom, ta présence. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Et lorsque tu as organisé un rendez-vous, tu es présent. Tu es présent, quand bien même nous ne pouvons pas te percevoir, parce que nous sommes encombrés. Tu es là. Tu es notre pierre précieuse. Et Seigneur, les dons que tu as mis en nous, jamais tu ne les renies, jamais tu ne les reprends, parce que tu es fidèle, Père. J'exalte ton nom. J'exalte ton nom. J'exalte ta fidélité. Seigneur, personne ne peut contester la fidélité de Dieu et je t'exalte dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bienvenue peut-être à des nouvelles personnes qui ne sont jamais venues. Ce soir, soyez vraiment les bienvenus. Alors, avant de commencer, je voudrais peut-être juste clarifier un peu par rapport aux annonces qu'on fait sur les rencontres de femmes. Ces derniers temps, il y a eu quelques modifications. Alors peut-être que ça n'était pas si clair que ça pour vous. Donc on va récapituler les choses. Voilà, la thématique générale de ces rencontres de femmes, déjà depuis l'année dernière, c'est sur le fondement de 1 Thessaloniciens 5, 23. Cette thématique générale, c'est de tout mon être, esprit, âme et corps. Nous les femmes, nous voulons être au Seigneur, dans le Seigneur, pour le Seigneur, par le Seigneur, de tout notre être, esprit, âme, corps. Ça, c'est notre thématique générale. Maintenant, nous déclinons cette thématique. Dieu nous donne des saisons. Il nous donne des saisons. Et là, nous sommes entrés dans une nouvelle saison que le Seigneur a mise devant nous. Et cette saison, alors, initialement, nous l'avions intitulée « Les eaux desséchées revivront ». Parce que le Seigneur nous a vraiment donné une vision pour cette saison sur la base de Ézéchiel 37. Nous en avons déjà parlé, nous avons commencé à entrer dans ce chemin. Et donc l'intitulé que nous avions retenu, « Les eaux desséchées revivront ». Mais nous avons rebaptisé ce titre qui pouvait peut-être paraître un peu macabre pour certains. Bon, moi, vous savez, j'aime la vérité. Hein. Les eaux desséchées, ce sont les eaux desséchées. On ne va pas dire, on va pas utiliser un autre terme pour ce que c'est. Les eaux desséchées sont les eaux desséchées. Mais nous pouvons penser qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui font leur premier pas dans la foi. Ça peut peut-être un petit peu être répulsif comme intitulé. Donc, on a rebaptisé cela la résurrection spirituelle. Ce qui signifie la même chose en fait, les eaux desséchées revivront, eh bien ça nous parle d'une résurrection spirituelle. Voilà, c'est notre saison ça. Nous sommes dans cette saison-là, la saison que Dieu veut pour nous. L'objectif final c'est ça, c'est la résurrection spirituelle selon Ézéchiel 37, 1 à 14. Alors voilà, dans cette saison dans laquelle nous sommes rentrés, nous avons déjà eu deux rencontres. Aujourd'hui, c'est la troisième rencontre. Nous nous sommes vus en septembre, en novembre. Voilà, récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à présent pour celles qui arrivent. C'est important, je crois, hein, de vraiment rentrer dans ce que Dieu nous a donné pour celles qui nous rejoignent. Et c'est toujours bien aussi de nous rappeler les choses, de revenir dans le contexte. Donc en septembre, le Seigneur a lancé un appel par rapport justement à cette vision, par rapport à Ézéchiel 37, à ce qu'il veut faire. Voilà, il nous a demandé de nous engager. Et ensuite, nous avons poursuivi. Alors, peut-être justement, je vais donner la parole à quelqu'un qui veut dire aux autres ce soir, qui veut résumer ce que nous avons vu depuis les deux dernières fois, qui veut rappeler ce que le Seigneur a mis devant nous, qui veut résumer en quelques mots pour les nouvelles qui sont là. Qu'est-ce qu'on a vu? Dans quoi nous sommes rentrés? Qui veut résumer? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'il y a dans cette saison? Est-ce que vous vous souvenez? On est là pour réviser. L'armée de Dieu. Le Seigneur, effectivement, nous annonce d'avance. Il annonce d'avance ce qu'il fait. Et par avance, il annonce aux femmes de cette église qu'il veut lever parmi elles son armée. Il veut lever une armée de femmes. Parmi les femmes de cette église, il va lever son armée. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre par rapport à ça? Voilà, il y a un mais. Il y a un mais. Le Seigneur veut lever son armée, mais il y a un obstacle, des obstacles, il y a des entraves. Et avant de pouvoir lever cette armée, le Seigneur veut d'abord nous restaurer. Il veut d'abord nous restaurer. Voilà, souvenez-vous, nous sommes faits pour un but. Le Seigneur a tout fait pour un but. Nous avons vu ça dès le départ. Le Seigneur a tout fait pour un but. Et nous, êtres humains, nous avons un but. Hommes et femmes, ce but, quel est-il? Quel est ce but? C'est le règne de Dieu, d'accord? Nous sommes appelés à participer au règne de Dieu et à hâter ce règne, à l'établir, à bâtir ce règne ici sur la terre, ce règne qui sera éternel, ce règne dont il est question dans les Écritures, dans l'Apocalypse, ce règne vient. Pourquoi est-ce que nous appelons Jésus-Christ le roi? Un roi règne. Est-ce que Jésus-Christ règne aujourd'hui pleinement sur la terre, sur les hommes, sur les femmes? Non. Sur sa création? Non. Il ne règne pas encore, mais c'est lui le roi. Il viendra donc dans son règne. Il remplira son règne. Et nous, quand nous avons été appelés par le Seigneur, quand nous avons dit oui au Seigneur, quand nous nous sommes convertis, ce n'est pas seulement pour faire un baptême d'eau et pour dire « je suis converti, je suis sauvé ». Ça y est, j'ai échappé à la mort, à l'enfer, je suis sauvé. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, Dieu nous assigne un but, une mission. Participer à l'établissement de son règne. C'est pourquoi la parole nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». C'est un commandement que Dieu nous donne à nous croyants de chercher premièrement le royaume. Le royaume, c'est le règne. C'est tout ce qui va avec le règne. C'est le règne fini, lorsqu'il est établi. Le règne visible, c'est le royaume. Voilà, rechercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher premièrement. Mais pour chercher, il nous faut avoir intégré cette vision du règne, cette mentalité du règne, que je ne suis pas seulement chrétienne pour être sauvée. C'est vrai, Dieu m'a sauvée. Et je ne me prive pas de ma joie d'être sauvée. Je jouis de ce salut tous les jours, dans tous les domaines de ma vie, jusqu'aux plus petites choses. Mais mon appel, ma vocation, c'est vivre le règne de Dieu. Est-ce qu'on n'aspire pas à voir le règne de Dieu, l'amour de Dieu régner, la paix de Dieu régner, la puissance de Dieu régner dans ce monde, sur tous les hommes? Voir Dieu dans sa gloire, régner enfin? Voilà, et nous sommes partie prenante, les hommes et les femmes. Et nous avions vu que dans Genèse, Dieu appelle hommes et femmes à régner. Il confie le règne, il confie l'autorité, il confie la création à l'homme et à la femme, à Adam et Ève. Donc, nous sommes appelés à régner, nous les femmes. Et nous ne devons pas rester sur le bas-côté. Nous ne devons pas rester dans le fossé, à côté du chemin. Non. Parce que si les femmes restent sur le bas-côté, dans le travail du règne ne viendra pas. Il manque la moitié des ouvriers. Nous sommes importantes, autant que les hommes, pour établir ce règne. Et ça, il faut vraiment qu'on intègre, qu'on ait cette mentalité. Bien sûr, chaque chose en son temps. Ça, c'est ce que Dieu a prévu, a mis devant nous. Mais Dieu respecte les étapes. Il respecte les étapes. Il sait exactement où nous en sommes. Alors voilà, Dieu a une stratégie pour établir son règne. Dans la suite des temps, il a une stratégie. Depuis la nuit des temps, il a une stratégie. Et pour cette église à Angers, il en a une. Il en a une. S'agissant des femmes de cette église, il nous a montré qu'il voulait se lever vraiment une armée de femmes qui sont pour lui, qui ont un cœur pour lui, qui vont travailler pour lui, des adoratrices, des témoins, des femmes qui intercèdent, des femmes ferventes dans la prière. Cette armée, elle sera vraiment magnifique, admirable, et elle fera l'œuvre que Dieu avait prévue pour elle, dans cette église, pour cette ville. C'est ça que Dieu veut faire. Mais il y a un mais, effectivement, il y a un mais. Ce mais vient du fait que dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui sont encore à l'état de mort. Nos vies ne sont pas encore complètement gagnées par la vie de Dieu. Il y a des zones qui sont desséchées dans nos vies. Il y a des entraves dans nos vies. Il y a des empêchements. Il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des liens, il y a des prisons, des chaînes. Il y a des pièges dans lesquels nous sommes enfermés, captives. Tout cela est là. Dieu le voit. Dieu le voit. Au final, il voit son armée. Et nous aussi, nous la voyons par la foi. Mais aujourd'hui, Dieu voit aussi notre besoin de restauration. Et dans ce passage d'Ézéchiel que nous allons relire, Dieu nous montre ce qu'il veut faire. Il veut nous restaurer d'abord. D'abord. Nous allons lire ensemble ce passage, relire ensemble ce passage. Alléluia. Ézéchiel 37. Je lis. Nous lisons ensemble. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Le Seigneur connaît notre besoin de restauration. Il sait qu'il faut, dans certains domaines de nos vies, parfois toute notre vie, et comme ces eaux desséchées, il sait qu'on a besoin d'être revêtus de nerfs, de chair, c'est-à-dire d'une nouvelle sensibilité, d'une nouvelle force, la chair, les muscles, d'une peau, quelque chose qui nous protège, une nouvelle identité. Et ensuite vient l'étape finale, la résurrection spirituelle. Mais avant cela, il veut restaurer les femmes de cette église. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans cette église et qui sont bloquées dans leur vie spirituelle et dans leur vie tout court. Le Seigneur voit cela. Alors nous, à chacune de nos rencontres, nous croyons que le Seigneur va nous conduire d'étape en étape, qu'il va nous dévoiler étape après étape la réalisation de cette promesse, de cette résurrection spirituelle. Nous n'allons pas nous écarter de ce chemin pendant cette saison, ni à droite, ni à gauche. Nous allons rester fidèles à cette feuille de route que le Seigneur nous a donnée, ensemble, jusqu'au but final. Nous ne savons pas encore tout, du comment, du quand, mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur va le faire. Il va nous restaurer, il va nous lever, il va nous réveiller. Alors suivons les étapes. Soumettons-nous à chaque étape avec confiance. Donc pour le moment, quelles sont les étapes que nous avons franchies ensemble ? La première fois que nous nous sommes rencontrés, donc je reprends le rappel, la première fois que nous nous sommes rencontrés, nous vous avons exposé cette vision, ce projet du Seigneur pour les femmes de cette Église. Et le Seigneur a lancé un appel à vous toutes, celles qui étaient là. Est-ce que tu veux t'engager dans cette vision ? Est-ce que tu désires répondre à cet appel ? Est-ce que tu veux de ce projet ? Et toutes les femmes qui étaient là se sont levées ce jour-là. Et nous avons dit oui. Nous avons dit oui au Seigneur. Nous nous sommes engagés. Ça, c'était la première étape. C'est l'étape du vouloir. Nous avons dit oui, je le veux, Seigneur. C'est l'étape du vouloir. Vouloir, c'est la première étape. Il faut vouloir. Si je ne veux pas, le Seigneur ne fera rien avec moi. Il me laissera là où je suis parce qu'il respecte ma volonté. Il veut de moi un engagement. C'est l'étape du vouloir. Si j'ai dit oui, alors je me suis engagée. Ma parole a de la valeur. Ma parole, ce n'est pas n'importe quoi. Dieu prend au sérieux ma parole. J'ai dit oui, je me suis engagée. Maintenant, ça va être suivi des faits, parce que Dieu s'est saisi de ta parole. Dieu s'est saisi de ton engagement, et même si toi, tu l'oublies demain, ou après-demain, que tu ne te souviens plus, Dieu, lui, n'a pas oublié que ce jour-là, tu lui as dit oui. C'est fait. Le Seigneur n'oubliera pas, même si toi, tu oublies. Alléluia. Ensuite, dans une deuxième étape, donc la fois d'après, quand nous nous sommes vus, c'était la dernière fois, c'était le 24 novembre, nous avons franchi une deuxième étape ensemble. L'étape du vouloir est importante, mais vouloir ne suffit pas. Après le vouloir, il y a le besoin de voir. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Il y a le besoin de voir, de voir. Et nous avions intitulé notre soirée la dernière fois « Que la lumière soit ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. « Que la lumière soit ». Parce que j'ai besoin de voir. Oui, voir, mais voir quoi ? Voir quoi ? Relisons ensemble. Reprenons le passage. Ce n'est pas celui-là, non. C'est Ézéchiel toujours. Je ne l'ai peut-être pas remis. Je vais vous le lire. Le relire. Donc je reprends. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. C'est là que c'est important. Il me fit passer auprès d'eux. Écoutez bien, il me fit passer auprès d'eux. Le Seigneur transporte le prophète. Il l'emmène dans la vallée. Il le dépose. Et là, il lui fait faire le tour des ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Auprès d'eux. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Qu'est-ce qu'on a là ? Voyez la scène ? Le prophète est transporté par le Seigneur, déposé au milieu de la vallée des ossements. Vous imaginez la scène de désolation ? Des ossements desséchés par milliers. Et là, le Seigneur prend le prophète et lui montre, ossement après ossement, il lui fait passer au milieu, tout autour, auprès des ossements, pour qu'Ézéchiel voit. Il doit voir. Il faut qu'il voie. Il faut qu'il se rende compte. Il faut qu'il prenne la mesure de ce qui est là devant lui. Le Seigneur en a déjà pris la mesure, lui. Il est rempli de ça, le Seigneur, de cette désolation. Mais maintenant, il faut qu'Ézéchiel voie. Il en est de même pour nous. Vous savez, toute œuvre de restauration, si nous voulons la restauration, et nous avons dit que nous la voulions, toute œuvre de restauration commence par une prise de conscience. toute œuvre de restauration commence par une prise de conscience, un éveil de ma conscience. À un moment donné, je vois. Je vois ma situation. Je vois ma condition. Mes yeux s'ouvrent sur ce que je vis, sur ce que je suis, sur ce que je fais, sur ce qu'on me fait. Je vois. J'ouvre les yeux. Le Seigneur veut cette prise de conscience. Le Seigneur dit, vous avez besoin de restauration, mais avons-nous conscience de notre besoin ? Avons-nous toujours conscience de notre besoin ? Certaines en ont conscience, d'autres non, parmi nous. Parfois, on a conscience d'une partie de nos besoins, mais nous ne voyons pas tout. Nous ne voyons pas la profondeur du problème. Le Seigneur veut que nous ayons cette prise de conscience, et seule la lumière du Seigneur pourra nous révéler la vérité sur notre condition, notre réel besoin. Seule sa lumière. Et là, nous tomberons à genoux devant le Seigneur et nous dirons vraiment, restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi. Voilà. Nous avons besoin de cette lumière. Vous savez, nous sommes souvent aveugles sur nos besoins. Nous sommes souvent aveugles sur nos besoins. Et là, ce passage nous montre que le Seigneur veut que nous nous laissions visiter par lui. Il veut que nous nous exposions à sa lumière. Là, dans cette scène, le Seigneur nous montre qu'il y avait une vallée remplie d'ossements. Ils étaient complètement secs. Ça veut dire qu'ils étaient là depuis longtemps. Ils n'étaient pas juste, c'était pas juste des ossements avec. Il restait pas un brin de chair, il restait plus rien. C'était quasiment de la cendre. Ils étaient complètement secs. Il n'y avait plus une once de vie. Ça veut dire que ça fait longtemps que les ossements étaient là. Ça fait longtemps que la mort avait produit son œuvre, avait fait son œuvre. On les avait même oubliés. Ils étaient oubliés. On ne les voyait plus. Ils étaient dans les ténèbres. Mais là, l'Éternel passe. L'Éternel passe. Il fait lever sa lumière sur cette vallée qui était dans les ténèbres, qui était oubliée, sur les ossements. Il plane. Il plane sur les ossements. Il fait paraître sa lumière. Il fait paraître sa lumière sur ce terrain de désolation. Est-ce que nous voulons nous laisser éclairer par cette lumière ? Est-ce que nous voulons que la lumière du Seigneur passe sur nous ? Est-ce que nous voulons que la lumière du Seigneur nous révèle ? Est-ce que nous voulons nous exposer à cette lumière qui passe ? Le Seigneur passe aujourd'hui. Il passe. Mes sœurs, à cette question, il faut donner une réponse dans son cœur. Est-ce que je veux me laisser voir ? Est-ce que je veux voir ? Est-ce que je veux m'exposer ? Ah. Cette question, nous devons y répondre. Alors, nous avons souvent des objections et je voudrais passer en revue certaines de ces objections que nous avons par rapport à ça. C'est pas facile de se laisser voir en pleine lumière. C'est quelque chose de difficile. Ça demande du courage. Et nous avons différentes objections. Certaines objections sont des objections dites doctrinales. Dites doctrinales, je dis bien. Je voudrais les dénoncer ici. Les dénoncer. Certains chrétiens, chrétiennes pensent avoir compris que, eh bien, bon, ben, du moment qu'on est, si vous voulez, converti. Je suis convertie. Je me suis même fait baptiser. Je marche avec le Seigneur. Je suis même baptisée dans le Saint-Esprit. Je sers le Seigneur dans l'Église. J'exerce même les dons spirituels, peut-être. Il me semble que je fais de mon mieux pour obéir au Seigneur, pour lui être agréable. Voilà, les cases sont cochées. Les cases sont cochées. Tout est bon, on est bon. Pas la peine de chercher plus loin. Hein. On va pas chercher plus loin, qu'est-ce qu'on va aller chercher là, compliquer les choses. C'est bon, toutes les cases sont cochées, ça va. C'est vrai, j'ai quelques problèmes, mais bon, c'est pas grave. Les problèmes de l'âme, on fait avec. Non, ce n'est pas grave. Dans le Seigneur, rien n'est pas grave. Rien n'est anodin, sachez-le. Le Seigneur, c'est l'alpha et l'oméga, voyez-vous ? L'alpha et l'oméga. Le Dieu de l'infini et le Dieu des plus petites choses. Il le dit, le Seigneur, je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que même les plus petites choses de nos vies, les alphas de nos vies, comptent pour le Seigneur. Le Seigneur veut la perfection de sa vie dans nos vies. La perfection de son esprit, et c'est lui qui l'a produit dans nos vies. C'est son désir, c'est son héritage pour nous. Et nous, non, nous ne pouvons pas dire ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du moment que. Non, le Seigneur veut tout pour nous. Il veut nous donner le meilleur. Donc, rien n'est anodin, rien n'est à laisser de côté. Parfois, une petite pointe comme ça que vous ressentez dans votre âme de quelque chose qui ne va pas révèle un iceberg en dessous, vous ne le voyez même pas. Mais le Seigneur, lui, le voit. Le Seigneur veut la pleine liberté pour nous. La vraie vie, la plénitude de la vie, pas une moitié, pas une demi-mesure. Donc non, ça c'est un raisonnement qu'il faut écarter. Vous savez, les problèmes de l'âme ne sont pas rien. Parfois, j'ai l'impression qu'on lit la parole, mais qu'on oublie ce qui en fait l'essence. N'est-il pas dit dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». N'est-il pas dit, Jésus n'a-t-il pas dit lui-même, quand il a ouvert le rouleau dans le temple ? Dans Ésaïe 61, c'est rapporté. C'est le passage qu'il lit d'Ésaïe 61, il le lit dans l'évangile de Luc. Il nous est raconté que Jésus est dans le temple, qu'il ouvre le rouleau, qu'il fait la lecture et qu'il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Pour consoler tous les affligés. Est-ce qu'il nous est parlé de maladie physique ici ? De quoi nous est-il parlé ici ? Le Seigneur Jésus est en train de nous définir son ministère, d'accord ? Il est en train de nous dire pourquoi il est venu sur la terre. C'est un moment solennel où il se dévoile. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis oint pour ça. Je suis oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui sont captifs. Pour ceux qui sont prisonniers, pour ceux qui sont affligés. Voilà pourquoi Jésus-Christ est oint. Alors s'il vous plaît, ne dites pas « c'est pas grave ». Ne dites pas « c'est pas grave, je peux vivre avec ». Parce que c'est le ministère du Seigneur. C'est pour ça qu'il est venu. C'est ça qu'il est venu faire dans nos cœurs. Ne nous privons pas de cela. Une autre objection que j'entends parfois chez certains chrétiens, là encore, je crois que c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Il y a le « ce n'est pas grave » qu'on a vu et il y a le « je n'ai pas le droit ». Je n'ai pas le droit. Quand je me suis convertie jeune, heureusement, ça n'a pas eu d'effet sur moi. Merci Seigneur. Mais j'ai entendu cette parole. Un chrétien triste est un triste chrétien. Et j'avoue que j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes qui étaient complètement liées par ce genre de propos. Complètement lié. Un chrétien triste est un triste chrétien. Mais comment tu fais quand tu es triste alors ? Ça veut dire que tu es un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne ? Tu n'as pas le droit d'être triste ? Tu n'as pas le droit de souffrir, d'être affligé ? Mais ce qu'on vient de lire nous dit tout le contraire ? Oui, mais ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais une fois que je connais le Seigneur, normalement c'est fini. C'est le passé. Derrière tout ça, on n'en parle plus, hop, c'est sur la croix. Voilà, c'est réglé. Ne soyons pas expéditifs. Le Seigneur n'est pas expéditif. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que toutes choses anciennes sont passées, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais lorsque nous lisons bien et que nous cherchons à la bonne traduction, cela signifie « toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». Et lorsque nous lisons bien la parole de Dieu, nous trouvons d'autres passages qui nous parlent du fait que nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire. Qui dit de progrès en progrès dit bien qu'il y a un processus. De gloire en gloire dit bien qu'il y a des étapes, que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est faux. C'est faux. Donc le raisonnement qui consiste à dire mais je n'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être dépressive, j'ai pas le droit d'être déprimée, j'ai pas le droit d'avoir de problème dans mon âme, dans mon cœur, parce que je suis chrétienne. Et la culpabilité qui peut venir à ce moment-là, parce qu'on se dit mais donc je serais peut-être une mauvaise chrétienne si j'étais comme ça, ou je suis peut-être une mauvaise chrétienne. Croyez-moi, c'est un faux raisonnement. Laissez de côté ce raisonnement. Ce n'est pas la vérité. Nous avons le droit. Nous avons le droit. Le Seigneur œuvre dans nos vies progressivement. Nous avons tout reçu en esprit. Nous avons tout reçu. C'est vrai. Et toutes choses, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que c'est fait. Mais à un moment donné, il faut que ça se réalise. Il faut que ça vienne à la réalité. C'est des choses que je dois saisir dans ma vie. Ça ne se fait pas d'un coup. Et heureusement, sinon, mais j'exploserais. Vous vous rendez compte? Le Seigneur va pas après pas. Mais ce que la parole de Dieu veut nous dire, c'est que c'est acquis. C'est que le résultat est acquis. La fin de l'histoire, on la connaît. La fin de l'histoire, c'est qu'effectivement, le Seigneur a vaincu ces choses. Et que nous sommes vainqueurs. Nous sommes au bénéfice de cette victoire. Mais il y a bien une notion de croissance. Il y a bien une notion de processus dans la vie chrétienne. C'est réel. Autre raisonnement. Alors, oui, ça arrive. Certaines personnes, certaines femmes pourront peut-être nous dire ici, mais moi, je vais bien, franchement. Franchement, je vais bien. Je ne souffre pas. Je me sens bien. Je suis bien, moi, dans ma vie. C'est vrai. Peut-être que d'autres, c'est vrai que beaucoup de personnes souffrent, etc. Mais moi, merci Seigneur, heureusement, mais je me sens vraiment bien. Ça va. Je ne souffre pas. Je ne ressens pas de problème, de besoin particulier dans ma vie. Je vous crois. Mais savez-vous qu'il y a des choses cachées ? Personne n'échappe, ma sœur. Personne n'échappe. Vous savez, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une amie un jour. Elle avait été abandonnée, confiée à des foyers. Enfin, une vie vraiment morcelée, des abus, des choses affreuses qu'elle avait vécues. Et moi, et nous étions devenus amies dans la foi. Et voyant que je rencontrais des problèmes dans mon âme, elle était toujours surprise. Elle me dit, mais enfin, comment c'est possible ? Toi, tu as eu un papa, tu as eu une maman qui te disait « je t'aime » tout le temps. Tu n'as manqué de rien dans la vie. Tout a toujours réussi. Au moment où elle me connaissait, je n'avais pas eu trop de problèmes. Mais elle me disait « mais comment ça se fait que tu as ce genre de soucis en toi ? C'est pas normal. Moi, je comprends, parce que moi, par où je suis passée, c'est normal qu'il y ait des séquelles. Mais toi, savez-vous, mes sœurs, personne n'échappe. » Et je disais, ben oui, tu vois, moi aussi. Pourtant, on m'a dit, je t'aime. Pourtant, j'ai eu tout ce qui semblait nécessaire d'avoir pour une enfant, pour être construite convenablement, mais non. Je n'ai pas échappé, moi non plus. Moi aussi, j'ai été frappée. Moi aussi, j'ai été tordue. Personne n'échappe, même si tu as l'impression que tu vas bien. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas, on n'est pas toutes dans les mêmes situations. Hein. Certaines personnes souffrent vraiment d'une façon très aiguë, d'autres se sentent bien. Je ne le conteste pas, je dis juste, il y a des choses cachées. Et le Seigneur, encore une fois, est le seul qui est capable de nous les révéler. Je vais vous donner beaucoup de témoignages personnels aujourd'hui. Dernièrement, enfin, il y a quelques années, je priais et j'étais seule dans ma chambre, je priais. Et bon, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, des circonstances, des explications de cette histoire, mais dans ma jeunesse, suite au décès de mon père, j'ai été séparée de toute la famille de mon père. Mon frère et moi, nous avons été complètement séparés de toute la famille, de tous les membres de la famille de mon père, du jour de sa mort jusqu'à aujourd'hui. Et ce jour-là, je priais, j'avais à cœur la réconciliation et les retrouvailles avec cette famille que j'avais perdue, parce que non seulement j'avais perdu mon père, mais c'est comme si je l'avais perdu deux fois, parce que j'avais aussi perdu sa famille. Et je demandais ça au Seigneur. Mais vous voyez, je ressentais aucune émotion, franchement. Je demandais ça parce que je savais que j'avais ça sur le cœur. Je savais que c'était juste, si vous voulez. que je devais m'engager dans cette voie, mais je ne ressentais rien, ni souffrance, ni manque, ni aucune émotion. C'était froid, il n'y avait rien. Et pendant que je priais à un moment donné, écoutez, s'est passé quelque chose qui m'a complètement scié les pattes. Quand j'y repense maintenant, le Seigneur est venu sur moi et il a révélé en moi une poche que j'ignorais complètement de moi. Et pourtant, je suis quelqu'un qui m'introspecte un petit peu, autant que, voilà, que nécessaire, mais je n'avais rien vu de tout ça. Et en moi, il y avait une douleur, mais énorme. Et là, le Seigneur a fait ressortir ça. Il est venu sur moi et c'est ressorti. Je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je me suis mise à prier, à revendiquer de la récupération, de retrouver ce que j'avais perdu. J'ai vu une Eva qui souffrait du manque de ce fondement familial. Et je m'entendais prier et réclamer et vraiment supplier, prendre même autorité pour retrouver cette famille qui m'avait été volée. Mais je l'ignorais avant ce moment-là. C'est dans la présence du Seigneur que ça a été révélé. Oui, il y a des choses cachées qu'on ne soupçonne même pas. On pense que tout va bien, je ne ressentais aucune émotion. Il ne me manquait pas, j'y pensais même jamais. Parce que c'était tellement loin, si vous voulez. Mais il y a des choses enfouies en nous. Et le Seigneur va jusqu'au bout. Tout ce qu'il entreprend. Il veut me rendre ma famille paternelle. Et vous voyez, la semaine dernière, j'ai commencé à retrouver certaines de mes cousines. Et ce jour-là, il m'avait dit, je vais le faire. Attends. Il a commencé à le faire. Voilà, je ferme la parenthèse. Des miracles sont possibles. Des choses inespérées. Des choses auxquelles nous ne pensons même pas. Nous ne pensions pas que nous en avions besoin. Mais nous en avions besoin. Alors voilà, je m'adresse à celles qui disent, je ne souffre pas, je vais bien. Ça aussi, attention. C'est une objection. Méfiez-vous. Voilà. Ce n'est pas forcément la réalité, hein, en fait. Autre objection. Et là, je pense que c'est beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes savent. Elles vivent leur souffrance. C'est leur pain quotidien. Elles savent, elles voient. Elles voient. Mais si vous voulez, elles voient sans trop rentrer dans les profondeurs, parce que c'est tellement douloureux. C'est tellement douloureux. Alors leur proposer d'aller voir plus en profondeur, d'aller pénétrer dans ces zones si douloureuses, c'est trop dur. C'est très dur. C'est tellement douloureux, ça fait tellement mal qu'on ne se sent pas le courage, la force d'affronter ça. Ça, c'est une objection aussi, qu'on peut comprendre facilement. Il y a des choses qu'on a vécues qui sont tellement terribles. C'est trop douloureux. C'est trop douloureux. J'ai peur. J'ai peur de ce que je vais ressentir. J'ai peur de ce dont je vais me souvenir. J'ai peur. Je préfère laisser ça de côté. Passer par-dessus. On a peur. Et puis, on peut avoir peur aussi des conséquences. Qu'est-ce qui va se passer? Si j'ouvre le dossier, hein, je parle un peu comme une juriste, si j'ouvre le dossier, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir peut-être dire des choses, faire des choses. Que vont penser les gens, ma famille, mes amis? Qu'est-ce qui va devenir de moi, de ma situation, peut-être mon travail, ma maison? Ça peut entraîner des bouleversements quand on ouvre un dossier, vous savez. On peut avoir peur de ça. Peur. Ça aussi, je pense que c'est fréquent. C'est fréquent. Et puis, dernière objection que l'on peut évoquer, il y a aussi ces femmes qui voient leurs conditions, leur situation sans voir, si vous voulez. Elles voient et en même temps, elles ne voient plus rien. Tu vois, mais tu es tellement habituée à subir, tellement habituée à endurer le mal, le malheur, que tu ne vois plus. Tu avances. Certaines femmes sont arrivées à une forme de vie léthargique, une vie comateuse, une vie anesthésiée. On avance comme un zombie dans le brouillard, dans la souffrance, dans le malheur. Et voilà, c'est comme ça. On voit sans voir. Et je crois que pour ces femmes-là, c'est la seule façon de survivre, en fait. C'est la seule façon. C'est ça où la vie est insupportable. Et là aussi, Dieu veut agir. Cette vie mortifère, elle n'est pas pour vous. Ce n'est pas la vie que Dieu vous avait réservée. Elle n'est pas pour vous, cette vie. Il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas ce destin-là que Dieu t'a réservé. Et il y a le moyen d'en sortir en Jésus-Christ. Ce n'est pas ça que Dieu t'a réservé. Et même si ça fait des années, même si c'est acté définitivement, non. Pas pour le Seigneur. Pas pour le Seigneur. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas fini. Alors mes bien-aimés, voyez, aucune de ces objections que j'ai évoquées n'est valable devant le Seigneur. Je voudrais vous le dire, aucune de ces objections n'est valable. Et je crois qu'on a besoin de faire un constat de réalité là où on a souvent fait un déni de réalité. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Alléluia ! Ce passage dit la vérité. Quand ces choses sont démasquées, c'est la lumière de Dieu qui démasque, qui dévoile, qui révèle ce qui est caché dans les ténèbres. Il y a des ténèbres dans nos cœurs encore. Il y a encore des zones enténébrées. Mais là, le Seigneur, dans sa lumière, démasque. Le Dieu de vérité et de lumière démasque. Et quand ces choses paraissent à la lumière, le pouvoir de la lumière, c'est de renverser la situation. C'est-à-dire ces choses qui étaient ténèbres, Dieu les convertit à sa lumière. Il renverse une situation pour sa gloire. Et là, le processus de restauration porte tous ses fruits. Mais il faut la lumière. Sans la lumière, rien n'est possible. Il n'y aura rien sans la lumière. Rien. Il faut la lumière. La lumière du Seigneur. Alors, est-ce que vous êtes convaincus à présent ? Est-ce que vous êtes convaincus ? Est-ce que vous voulez vous laisser éclairer par cette lumière ? Est-ce que vous voulez vous exposer à la lumière du Seigneur ? Il y a peut-être encore une autre objection que j'ai souvent entendue. D'ailleurs, ça m'est arrivé de penser comme ça aussi, pour ma part. Mais moi, je veux bien être restaurée. Moi, je sais que j'ai des problèmes et... Alors là, oui, je veux la restauration. Mais par contre, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout voir ? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que le Seigneur ne me guérirait pas ? Comme quand on vous fait une prise de sang, fermez les yeux, tournez la tête. Voilà, fais ton office bourreau. Non, le Seigneur n'est pas un bourreau. Fais ton office médecin. Et puis ensuite, je tourne la tête et ça y est, hop, c'est bon, on m'a fait la piqûre. Non. Mais parfois, on se dit ça, n'est-ce pas ? Ça ne vous arrive pas ? Bon, Seigneur, fais-le. Mais moi, bon, tu le fais, toi. Et puis moi, j'attends que tu le fasses. Et puis ce sera fait. Et quand ce sera fait, tu m'appelles. Toi, tu es tout puissant pour le faire. Est-ce qu'il faut absolument que je voie les détails ? Il faut absolument que je sois associée au processus, là ? Est-ce que c'est nécessaire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est nécessaire ? Et pourquoi ? Notre accord, oui, mais je joue le rôle de quelqu'un qui donne son accord. Oui, je veux. Je veux être restaurée. Mais par contre, je ne veux pas voir. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux pas voir. Je ne veux pas rentrer dans les détails, me remémorer des choses, etc., ressentir. Tu fais le travail, Seigneur, et puis moi, je suis au bénéfice de ton œuvre de restauration. L'accord y est. Par contre, la personne ne veut pas voir. Pourquoi le Seigneur veut-il que je voie ? Pourquoi ? Dites-moi. Il y a une raison. Oui. Quoi d'autre ? Pourquoi est-ce qu'il faut que je voie ? Dites-moi pourquoi je dois voir ? Pourquoi je dois voir la façon dont le Seigneur va travailler ? Les éléments qu'il va toucher, le pourquoi du comment, les racines, les origines. Pourquoi ? À quoi ça va servir ? C'est vrai aussi, quand je donne la main d'association, je me laisse faire. Dans tous les détails, je me laisse faire étape après étape. Je vais vous aider. Qu'est-ce qu'on a dit au début ? Notre mission, c'est le règne. Donc, je suis quelqu'un qui suis appelé à régner, d'accord ? Je suis appelé à régner. Dieu veut que je règne. C'est pour ça qu'il veut que je voie. Parce qu'il veut que j'ai de la connaissance. Dieu veut que j'aie de la connaissance, de la connaissance. Il ne veut pas seulement me guérir, il ne veut pas seulement me donner la délivrance, il veut aussi me donner la connaissance de la délivrance, la connaissance. Parce que si je vois le processus par lequel il me fait passer pour être délivré, pour être libéré, j'acquiers la connaissance. J'acquiers la connaissance spirituelle, j'acquiers la connaissance divine, j'acquiers la connaissance de l'âme humaine. Je ne repasserai plus par les chemins par lesquels je suis passée, parce que je connais le chemin de délivrance. Et si la tentation vient, je connais le chemin de délivrance. Donc je saurai retourner à ma délivrance. Si je suis écartée, si une tentation vient après que j'ai été délivrée, si j'ai la connaissance, je connais le chemin, je peux revenir, je peux rebrousser chemin, je sais le chemin. J'ai la connaissance. L'expérience ne suffit pas, mes sœurs. Il faut aussi la connaissance. Il ne faut pas la connaissance sans l'expérience, ça ne sert à rien. Mais il ne faut pas non plus seulement l'expérience, il faut aussi la connaissance. Donc j'ai besoin de connaissance pour ne pas tomber à nouveau dans la tentation, pour pouvoir retrouver le chemin de ma délivrance. 1, 2, le Seigneur veut que j'aie de la connaissance pour pouvoir accompagner d'autres personnes. D'autres. Parce que ce que j'ai vécu, je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. D'autres l'ont vécu. Et je saurai reconnaître. Quand je vois quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un, je saurai reconnaître le problème que j'ai vécu. Je pourrai l'aider, l'accompagner. Je pourrai l'exhorter. Le Seigneur, vous savez, est un gagnant. C'est un Dieu de victoire. Il investit en moi, il investit en toi. Il va récolter au centuple de son investissement avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Il veut récolter au centuple. Il ne veut pas seulement investir en toi, mais avec toi, il veut récolter au centuple de ses intérêts. Parce que toi, tu vas être un outil de bénédiction pour les autres. Dieu est un gagnant. Il investit, c'est pour récolter. Parce que tu vas bénir les autres. Si tu connais le chemin de délivrance. Exemple tout bête, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Quelqu'un qui se sent accusé, bon, je donne des choses très générales, mais attention, la connaissance, ça peut être très spécifique dans ces choses-là, dans les chemins de délivrance, très très spécifique. Mais quelque chose de général, je me sens sans cesse coupable. Le Seigneur un jour me délivre de la culpabilité par un passage. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le jour où la culpabilité revient... J'ai été délivrée par ce passage, par ce verset, par cette parole. Je ressaisis. Je connais le chemin. J'ai eu une révélation à ce moment-là. Je connaissais cette parole, mais ce jour-là, le Seigneur m'a révélé cette parole. J'ai été délivrée de la culpabilité. Si ça veut revenir, cette révélation est toujours là. J'en connais le chemin. Il y a des choses encore plus riches dans la connaissance, bien sûr, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. J'ai besoin de connaître les armes spirituelles. Et de les pratiquer, celles qui me conduisent vers la délivrance. Dieu me fait son associé. Dieu m'associe à la victoire. Parce que je suis appelée au règne. Au règne, à être actrice. Actrice aussi de ma délivrance. Dieu veut la connaissance pour moi. Voilà pourquoi je dois voir. Je dois voir. Est-ce que vous êtes avec moi ? Avec le Seigneur ? Alléluia ! Maintenant, voulez-vous vous laisser éclairer par la lumière de Dieu ? Qu'il y ait vraiment, je prie qu'il y ait un oui sans réserve dans vos cœurs. Un oui complet, un oui à 100%.
pour le Seigneur.
C'est lui qui va nous révéler notre réel besoin. Voilà, donc si vous dites oui, eh bien le Seigneur le recueille ce oui. Il le recueille. Il le recueille maintenant, gloire à Dieu, parce que cette étape, elle est vraiment indispensable pour, dans le processus de restauration pour aller plus loin. Elle est indispensable, voir. Et vous savez, vous n'allez pas voir tout d'un coup, là maintenant, ce soir, peut-être même, certainement même que ce soir, pendant cette soirée, vous n'allez rien percevoir de particulier que vous ne sachiez déjà. Mais sachez que si vous avez dit oui, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, restez à l'écoute parce que le Seigneur a recueilli votre oui et il va vous révéler des choses. Donc restez à l'écoute. Ayez cette disposition de dire « Seigneur, je veux voir. Montre-moi. Montre-moi. Je veux voir. Il y a des choses que je perçois déjà. Je sais que là, ça ne va pas là. Montre-moi. Soyez à l'écoute. Parce que dans les temps à venir, le Seigneur fidèle va le faire. Et si vous êtes à l'écoute, vous allez le recevoir. Vous allez voir ce que vous devez voir. Vous allez le voir. Alléluia. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Viens à présent la prochaine étape. La prochaine étape, c'est l'étape normalement de ce soir. Et j'ai fait un long rappel. C'est que la dernière fois, on n'avait pas épuisé encore le sujet. Alors, l'étape d'après, c'est celle d'aujourd'hui. Et nous avons intitulé cette soirée « La foi dans l'impossible ». Donc, il y a une première étape, c'est celle du vouloir, l'appel de Dieu. Oui, je veux le vouloir. Ensuite, il y a une seconde étape, l'étape du voir, que ta lumière soit, pour que je voie. Et ensuite, maintenant, après le vouloir, après le voir, il y a le croire. Le croire. Croire. La foi dans l'impossible. Reprenons notre texte. Il est à nous ce texte. Elle est à nous cette parole. Elle est pour nous. Reprenons-la. Donc je relis rapidement. La main de l'Éternel fut sur moi. Toujours dans Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » Dieu demande, « Ces eaux pourront-ils revivre ?» Dieu demande. Pourquoi cette question? Pourquoi, d'après vous, l'Éternel pose cette question au prophète? Ces eaux pourront-ils revivre, fils de l'homme? Pourquoi? A-t-il besoin de la réponse d'Ézéchiel pour faire ce qu'il veut faire? Pourquoi pose-t-il la question? Oui, pour voir s'il le croit. Le Seigneur veut savoir si Ézéchiel croit. Le Seigneur veut savoir, il veut évaluer la foi d'Ézéchiel. Il veut savoir si Ézéchiel a la foi. Il veut savoir si Ézéchiel a la foi. Remarquons ceci. Vous remarquez que le Seigneur n'a pas parlé tout de suite. Je veux dire, le Seigneur aurait pu dire, puisqu'il s'agit d'une vision, le Seigneur aurait pu apparaître à Ézéchiel, vous voyez, sans le transporter dans la vallée. Il aurait pu lui apparaître, lui parler, lui dire, voilà Ézéchiel, il y a une vallée d'ossements desséchés, et voilà ce que je vais faire, ce que je veux faire. Bon, ben, prophétise. Non, le Seigneur n'a pas fait cela. D'abord, il n'a pas parlé à Ézéchiel. Il a pris Ézéchiel, il l'a transporté, déposé, il lui a fait faire le tour. Il n'a pas parlé jusque-là. Pas un mot. Le Seigneur n'a pas parlé. Une fois seulement que le Seigneur a fait faire le tour à Ézéchiel, une fois seulement qu'il lui a montré les eaux desséchées, qu'Ézéchiel a eu le temps de considérer, de regarder, de constater ce qu'il voyait, une fois qu'il a bien vu et qu'il a dit « Et voici, ils étaient fort nombreux et ils étaient complètement secs. » C'est Ézéchiel qui parle là, « Et voici, C'est-à-dire, j'ai vu. Et voici, j'ai vu. Là, ça y est, j'ai vu. C'est seulement là que l'Éternel parle et dit, crois-tu que ces eaux revivront? C'est seulement une fois qu'il a bien montré à Ézéchiel la mort, le dessèchement total, la désolation absolue. Là, il lui pose la question maintenant. Crois-tu que ces eaux revivront? Pourquoi? Pourquoi fait-il cela, le Seigneur? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi c'est seulement une fois qu'Ézéchiel a pu contempler, a pu voir la misère qui règne dans cette vallée, la mort qui règne? Pourquoi le Seigneur a voulu d'abord qu'il voie avant de lui poser la question? Relisons ensemble la réponse d'Ézéchiel. Ça va nous aider. Qu'est-ce que Ézéchiel répond à la question? Il est écrit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. Qu'en pensez-vous de cette réponse? Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse d'Ézéchiel? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est la réponse que le Seigneur attendait de la part d'Ézéchiel? Est-ce que vous pensez que le Seigneur est satisfait par cette réponse? Qu'est-ce que vous en pensez? Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Vous savez quoi? C'est exactement ce que voulait le Seigneur. C'est exactement la réponse que le Seigneur attendait. Seigneur éternel, tu le sais. On pourrait dire, mais il aurait pu dire, oui Seigneur, oui, oui, tu vas le faire Seigneur. Tu es tout puissant pour le faire. Gloire à ton nom éternel, Yahweh. Éternel des armées, tu es tout puissant. Oui, oui, je le crois. On pourrait penser que le Seigneur aurait davantage apprécié ce genre de réponse. Plutôt que, Seigneur éternel, tu le sais. Mais moi, je crois que c'est exactement ce que voulait le Seigneur. C'est exactement le genre de réponse qu'il attendait. Parce que c'est le genre de foi qu'il attend de nous. Quel est le genre de foi que Dieu veut susciter en nous? Quel est le genre de foi que Dieu veut susciter en nous? Dans Ézéchiel 37, au travers de ce passage, quel genre de foi? Le genre qui naît dans la cendre, le genre qui naît dans la mort. Voilà le genre de foi que Dieu veut susciter. C'est ce genre de foi qu'il attend. Vous savez, quand vous voyez ce que Ézéchiel a vu, quand vous voyez jusqu'à quel point la mort peut régner, jusqu'à quel point la misère peut être absolue, le désespoir peut être absolu, quand vous voyez cela, c'était des vies, c'était des gens vivants. Le peuple de Dieu qui était là, étendu. Et les eaux disjoints étalées témoignaient d'un profond désespoir. Quand vous voyez cela, quand je vois ma condition, je ne dis pas, pas de soucis Seigneur, tu vas le faire. Alléluia, gloire à Dieu, j'ai la victoire. Donc quand vous voyez vraiment, la première chose que vous dites, c'est pas ça. Vous poussez le cri que pousse Paul dans Romains. Vous dites, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera, misérable que je suis? C'est ça que vous dites d'abord. D'abord, vous poussez un cri de désespoir. Quand vous voyez ce qu'Ézéchiel a vu, quand vous voyez votre condition, vous dites, mais misérable que je suis. D'abord, ensuite seulement, Paul a pu glorifier Dieu. Ensuite seulement, il a dit, mes gloires soient rendues à Jésus-Christ. Mais d'abord, il a poussé un cri de désespoir. D'abord, il y a l'effondrement total quand on voit. D'abord, il y a un effondrement en nous. Il y a un effondrement. On est rempli d'impuissance. Il y a un moment où l'impuissance nous remplit, l'impuissance de la mort nous remplit. Et on ne lève pas le poing pour dire victoire tout de suite. C'est le cri que l'on pousse quand il n'y a plus une once d'espoir, plus une once de vie, plus rien. Rien, il n'y a plus rien. Et c'est ce cri que poussent les eaux desséchées au verset 11. Il est dit, une fois que Ézéchiel a eu la vision, le Seigneur fait un commentaire à Ézéchiel. Il lui explique, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Les eaux desséchées poussent ce cri. Ils disent, nous sommes perdus. C'est ce cri de désespoir d'abord qui monte dans nos cœurs. D'abord. Alors oui, Ézéchiel a donné la bonne réponse. Il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Ne pensez pas qu'Ézéchiel n'avait pas la foi en Dieu. Ne pensez pas qu'Ézéchiel ne croyait pas que Dieu était tout-puissant. Ne pensez pas qu'en répondant ainsi, il a botté en touche. Essayant de ne pas trop se mouiller. Tu le sais, hein, Seigneur, moi. Mais toi, tu le sais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il a dit. La vérité, c'est que la réponse d'Ézéchiel, c'est la réponse d'un homme qui a été brisé. Voyez. Ézéchiel était déjà un homme brisé dans sa vie. C'est un homme qui avait été déporté, qui a perdu son foyer, sa maison. Avec sa femme, ils ont été déportés. Ils ont vu des abominations, l'idolâtrie dans le peuple. C'était un homme profondément attaché à Dieu, mais son cœur a été brisé. Il a vu des choses abominables. Et puis un jour, sa femme est morte subitement. Et la parole nous dit que c'est celle qui faisait les délices de ses yeux. Elle est morte subitement. Elle lui a été enlevée. Ézéchiel était un homme brisé, et encore plus brisé par la vision des ossements desséchés qu'il voit. Cette vision le brise, l'écrase. Seigneur, tu le sais, c'est la réponse d'un homme brisé, qui ne se précipite plus pour dire « Oui, alléluia, moi je sais que tu vas le faire, je sais ceci, je sais cela, je crois ceci, je crois cela. » Non, il ne se précipite plus. Parce qu'il n'a plus d'assurance en lui-même. Il ne sait plus quoi penser. Il est écrasé. Il est écrasé, cet homme. Il n'a plus les ressources naturelles pour affirmer quoi que ce soit. Il est totalement dépouillé, en fait. Et il ne lui reste que Dieu. À Ézéchiel, il ne lui reste que Dieu. C'est tout ce qu'il a. Il a Dieu, Seigneur éternel. C'est un homme qui adore. Seigneur éternel, tu le sais. Il n'espère qu'en Dieu seul. Il ne voit que Dieu seul, tu le sais. Il ne s'en remet qu'à Dieu seul. Au fond de lui, il sait que Dieu va le faire. Il sait que Dieu peut le faire, mais voilà, cette réponse, c'est la réponse que Dieu attend. C'est la foi pure, c'est la foi nue, c'est la foi dépouillée, la foi qui n'a plus de force, où il n'y a plus aucune force de moi-même. Moi, j'ai plus de force, j'ai plus rien. Tu le sais, Seigneur. C'est un aveu d'abandon, c'est un aveu de... Oui, d'abandon, de relâchement dans les mains de Dieu. C'est ce genre de foi que Dieu attend de nous. Elle vient au moment où tout est fini. C'est cette foi-là, elle viendra au moment où tout sera vraiment fini, où il n'y a plus rien que je puisse attendre, ni de moi-même, ni des autres. Je n'ai plus rien à donner. Je n'ai plus rien à faire. Je ne sais même plus quoi dire. Je suis sans force. Je n'ai même pas la force forcément de prier, de proclamer quoi que ce soit. Je suis fatiguée. Je n'ai plus de force. Je suis là, immobile, je suis allongée, je suis couchée dans ma vie, couchée. J'attends. Je suis couchée comme ces ossements desséchés. J'attends que la lumière de Dieu veuille bien passer et que le Seigneur fasse son œuvre. Mais il me reste quelque chose, une lueur. Il me reste une lueur. Je n'ai rien. Je ne peux même plus lever le petit doigt. Je n'ai plus de force. Mais il me reste une lueur à l'intérieur de moi qui brûle. Le Seigneur, c'est tout ce que j'ai. C'est seulement ce que j'ai. Je n'ai que le Seigneur. Et dans mon impossible, il n'y a que lui qui peut agir. Il n'y a que lui. Je suis incapable de quoi que ce soit. Même de manifester ce qu'un chrétien devrait manifester. Je n'ai plus la force. Mais s'il me reste le Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Et dans mon impossible, il est ma réponse. Seigneur, tu le sais. Toi, tu le sais, Seigneur. Toi seul, c'est ça le tu le sais. Tu, c'est toi seul, je n'ai que toi seul. Et je voudrais vraiment vous dire ce soir que si, dans vos vies, ça fait longtemps que vous priez pour certains problèmes, que vous ne voyez pas d'exaucement, que vous ne voyez pas de changement, ne pensez pas que le Seigneur n'entend pas vos prières. Ne pensez pas que le Seigneur ne sait pas de quoi vous avez besoin. Ne pensez pas que le Seigneur ne voit pas votre besoin. Et surtout, ne pensez pas que le Seigneur ne veut pas répondre à votre besoin. Oh, que non! Mais le Seigneur attend parfois dans nos vies que nous nous considérions comme ces eaux desséchées, que jaillisse de nous ce cri de désespoir. Dans certains cas, le Seigneur attend cela parce que c'est là qu'il va se glorifier. C'est là qu'il va avoir toute la liberté pour agir et pour manifester sa gloire. Le texte nous dit que les eaux étaient complètement secs. Donc, je répète, ça faisait longtemps qu'ils étaient là, qu'ils gisaient sur le sol. Dieu aurait pu venir avant. Non ? Il aurait pu venir avant ? Il aurait pu se déclarer avant ? Avant que les eaux ne soient complètement secs ? Pourquoi n'est-il pas venu quand les cadavres étaient frais, là ? Ils étaient déjà morts. Pourquoi est-ce qu'il a attendu que les eaux soient complètement secs ? Pourquoi ? Dans nos vies, c'est parfois comme ça. Parce que quand il nous reste encore un petit peu de force, nous sommes déjà morts, mais nous croyons qu'il nous reste de la force. Comme des cadavres qui seraient à terre, morts, sans vie. Mais il y a de la chair, il y a encore du muscle, il y a encore du sang. Il y a encore des humeurs. Il y a encore une apparence de corps, de vie, mais il n'y a plus de vie. Et moi, je crois que j'ai encore des ressources. Je crois que j'ai encore la force. Alors je me débats, je lutte, j'essaye. Je crois encore que je vais y arriver. Et ça, ça se mélange avec ma foi. Oui, je crois, Seigneur. Je crois. Mais il y a un mélange. C'est une foi qui n'est pas dépouillée de tout. Elle est mélangée à une propre assurance, à une propre confiance. Le Seigneur ne peut pas complètement manifester sa gloire. Mais quand les eaux sont complètement secs, quand il n'y a plus rien, là, il peut tout faire. Il a attendu, vous savez, que Lazare soit mort. Il aurait pu venir avant. Mais il a manifesté son miracle après la mort. Et quand je préparais ce message, j'ai eu vraiment une pensée très forte pour Abraham et Sarah. Et j'étais frappée par le fait que Abraham a reçu une promesse, la promesse du fils Isaac. Il a reçu la promesse des années avant qu'Isaac ne vienne au monde. Abraham était déjà âgé quand il a eu la promesse, et sa femme aussi. Mais les années sont passées, et Isaac ne venait toujours pas, Et Abraham a pris encore, je ne sais pas combien d'années, peut-être, je ne sais pas, Dina, sous ton contrôle, peut-être 14 ans ou 15 ou plus, je ne sais plus. Mais il a vieilli encore plus. Jusqu'au point où la parole nous dit qu'Abraham se considérait, je ne sais pas si j'ai pris le passage, Oui, c'est dans Genèse 21:5 et Romains 4:19. C'est quand il n'avait plus de puissance en lui. Quand il n'a plus eu de sève, quand il n'a plus eu de puissance en lui. Et qu'il se considérait déjà comme mort. Il considérait son corps comme mort. La parole nous dit cela. Vous lirez Genèse 21:5, Romains 14:19. C'est lorsqu'il se considérait comme mort au niveau de son corps, c'est là que Dieu lui a envoyé Isaac. Seulement quand il en est arrivé là. Là, il a eu Isaac. Et il considérait aussi que les entrailles de sa femme étaient sèches. Il n'y avait plus rien. Plus aucune chance. L'ombre d'une chance d'avoir un enfant. C'était la vallée des eaux desséchées. Il n'y avait rien. Rien qui puisse venir de l'homme. Rien qui puisse venir des ressources naturelles. Et Abraham, il en avait encore. Alors qu'il était déjà vieux, il avait reçu la promesse, il était vieux déjà. Il avait reçu la promesse étant déjà âgé, mais il lui restait encore des ressources. Et il a essayé et il a eu Ismaël. Il a trafiqué, il a essayé, il s'est battu et il a eu Ismaël. Parce qu'il lui restait encore des ressources naturelles. Ce n'était pas le fils de la promesse. Il a eu un fils, mais ce n'était pas ça que Dieu voulait pour lui. Dieu voulait pour lui Isaac. Donc Dieu a attendu qu'il soit vraiment mort, qu'il n'y ait plus rien, qu'il se considère comme tel. Et là, le Seigneur était libre d'agir. Et je veux vraiment nous encourager. Si vous ne voyez rien dans vos vies s'agissant de certains problèmes, ne croyez pas que Dieu a abandonné, que Dieu n'a pas vu, ne fera pas. Mais Dieu connaît les conditions de son intervention. Il sait de quelle façon il veut se glorifier, quand et pourquoi il attend. Il y a une raison. Dieu ne veut pas te donner Ismaël, il veut te donner Isaac, le fils de la promesse, la vraie promesse. C'est Isaac qu'il veut donner, pas Ismaël, pas une demi-délivrance, pas quelque chose qui serait un mélange de tes propres forces avec sa gloire. Dieu veut donner Isaac. Rien que Isaac. Et ça, c'est dur pour nous. C'est dur parce que nous ne voulons pas attendre. Il est difficile d'attendre. Je voudrais simplement que vous ne vous découragiez pas. Notre problème, c'est l'employé bénévole de Dieu. Notre problème, travaille pour le Seigneur. La mort est bonne. Elle détruit un édifice qui n'est pas agréable à Dieu. Elle le détruit. La mort est bonne, elle détruit l'édifice qui n'est pas agréable à Dieu. L'édifice que Dieu agrée, c'est celui qu'il va bâtir lui-même. Donc il faut d'abord la mort. La mort travaille pour nous, c'est bien. La mort est bonne, elle est bonne. Elle détruit ce qui ne sert à rien. Ce que Dieu n'agrée pas, elle le détruit entièrement. Et Dieu rebâtit sur les cendres. Il rebâtit sur les ossements desséchés. Il rebâtit à partir de rien. De rien. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Se laisser visiter par le Seigneur. Laisser le Seigneur planer au-dessus de nos âmes, faire luire sa lumière, faire paraître sa lumière sur nos vies. Être à l'écoute. Recevoir ce qu'il nous montre. Et puis croire. Croire. De toute façon, c'est le Seigneur qui le fait. Tout ce que nous avons décrit. Abraham n'a rien fait, vous savez. Il a cru avec ce qu'il avait et sa façon de croire au départ n'était pas totalement agréable à Dieu. Mais il a cru avec ce qu'il avait. Le Seigneur l'a amené à un point où sa foi a été complètement dépouillée de tout. Et là, la promesse est venue. L'exaucement est venu. Je ne dis pas que Dieu fait cela dans toutes les vies, parce qu'il nous donne aussi beaucoup de choses avant que nous n'en arrivions là. À chaque âge de la vie spirituelle, les dons de Dieu viennent. À chaque âge, il sait nous donner comme à des enfants, mais dans certains cas, c'est comme ça. Et ces femmes-là se reconnaîtront parce qu'elles ne voient rien se produire. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Voilà. Valérie, tu as prévu des chants? On va terminer. On va terminer dans la présence de Dieu toujours.